Bonjour à toutes et à tous, et soyez vraiment les bienvenus aujourd'hui en ce dimanche de culte pour louer notre Seigneur, pour partager sa parole, pour faire monter vers lui nos prières, nos louanges, nos adorations. Le titre de notre rencontre de cet après-midi, c'est Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il est très bien d'ailleurs illustré sur le petit dépliant avec sur le programme de notre rencontre de cet après-midi. Il est question de Saul sur le dernier verset, ce verset 58, un jeune homme nommé Saul, lors de la lapidation d'Étienne. Aujourd'hui, je vous invite à aller à la rencontre de ce personnage, un personnage très présent dans la Bible, un personnage avec des histoires riches, un personnage terrible, un personnage qui va vivre un revirement de situation, et je dirais une suite grandiose. Ce personnage, c'est Saul. Alors, nous verrons ensemble cet après-midi, j'espère que nous aurons le temps de boucler, nous aborderons quatre points, sa biographie. C'est important de savoir qui il était. Son engagement antichrist, c'est important de savoir ce qu'il faisait avant. Parce que souvent, ce que l'on retient de Saul, c'est juste Paul, l'apôtre, ce qu'il a fait, mais on oublie souvent ce qu'il était. On verra sa transformation, sa métamorphose même, et on verra son message. Commençons par sa biographie. Son nom juif, c'est Saul. Ce n'est que plus tard qu'il prendra le nom de Paul. Paul, c'était son nom romain. Dans Actes, au chapitre 13 et au verset 9, nous lisons « Alors Saul, appelé aussi Paul. » Il est né à Tarse, vers l'an entre 5 et 15 après Jésus-Christ. C'est important aussi de le situer, presque géographiquement aussi, et puis au niveau de la datation. Donc il est né après Jésus-Christ. Il est né dans cette ville principale de la Cilicie. La Cilicie, c'est une région de la Turquie. Il appartenait à la tribu de Benjamin, une des tribus. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous retrouvez la tribu de Benjamin. Il a été élevé dans l'obéissance de la loi et la piété juive traditionnelle, car son père était pharisien. Dans Actes, chapitre 23, verset 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, dans l'hémicycle, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. » Voilà, c'est bien de savoir d'où vient Paul et d'où vient Saul. Et on comprend mieux le pourquoi de la métamorphose. Il possédait aussi depuis sa naissance la qualité de citoyen romain. On a dit que Paul, c'était son nom romain. Tarse était une des capitales intellectuelles de l'époque, mais ses parents l'envoyèrent étudier à Jérusalem. Là, il reçut les traditions des pharisiens à l'école rabbinique de Gamaliel. Voilà, c'est le contexte qui se dessine. On en parle très rarement. D'où vient ce personnage biblique? Et on voit que Saul se lança avec ardeur dans le judaïsme, avec un zèle excessif. C'est le piège du zèle, des fois. Parfois, pas toujours. Un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Dans Galates, chapitre 1er, verset 14, « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Saul était doué, par nature. Il était brillant. Il était zélé, mais il était zélé à outrance. Il était membre d'une famille distinguée, c'était pas un analphabète, loin de là. C'est un bouillant jeune pharisien, un jeune diplômé, qui sort de l'ENA ou... bon, bref. Un jeune bouillant pharisien préparé à remplir de hautes fonctions au sein de son peuple et à démontrer de quoi il était capable. Il voulait faire ses preuves. Il avait aussi un métier. Vous savez quel était le métier de Paul ? Il fabriquait des tentes. Dans Actes, chapitre 18, verset 3, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. » Je vous laisse lire avec qui il discute. « Il y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. » Voilà, il avait un métier. Ça, c'était le point 1. Bon, situer sa biographie. Son engagement antichrist. Donc, on a donné la caractéristique de ce personnage. Saul, il faisait pas les choses à moitié, hein, vous avez compris. Hein. C'était, il faisait pas de la figuration. Hein. Il était là, et en plus, il savait de quoi il causait. Dans Galates, chapitre 1er, verset 13, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravager l'Église de Dieu. » Saul participe et Paul participe aux persécutions contre les premiers chrétiens, notamment celle que nous venons de lire, celle d'Étienne, à peu près en l'an 36 après Jésus-Christ. Je dis bien à peu près hein, parce que les datations elles sont pas exactes et très précises, hein, mais ça donne déjà une bonne idée. Acte 57. Versets 58 à 60, « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, Étienne. Ils le traînèrent dehors, hein, c'est la fin de ce que nous avons lu tout à l'heure. Ils le traînèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et, hein, ils lui ont lapidé quelqu'un, c'est lui jeter des cailloux jusqu'à ce qu'il meure. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne. » Étienne qui priait, il disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Ça fait penser aux paroles de Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, Étienne dit la même chose « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et après ces paroles, c'est un mot que je, enfin qui m'émeut aux larmes. Il s'endormit. Quand on s'endort, on est dans le calme en général. Quand le sommeil est là, bon, c'est paisible. Et là, il s'endort malgré les coups, comme s'il ne sentait plus rien. Voilà, Dieu n'a pas permis que il sente la faim venir. Il s'endormit. Acte 8, versets 2 et 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, hein, il était là. Hein. Pour lui, la persécution contre les chrétiens, Paul, c'était pas des paroles, hein, il y avait les actes. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. J'avais peur. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, il ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul ne se contentait pas de ravager l'église de Jérusalem et à Jérusalem. Il voulait étendre au loin son activité diabolique en demandant pour Damas, une autre grande ville, des lettres adressées aux synagogues, en sorte que, s'il s'y trouvait quelques-uns qui fussent de la voix de Jésus, il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Attention à ceux qui avaient suivi Jésus et qui suivaient son enseignement, l'enseignement de Jésus. Je vous rappelle les relations très tendues entre les chefs religieux et Jésus. La haine que Saul vouait aux disciples et par conséquent au Seigneur créait autour de lui une atmosphère de méchanceté, de peur, de haine. On détestait Saul. Si on pouvait l'égorger, on le ferait. On reconnaît en cela les traits du grand ennemi de Christ qui a conduit les hommes à le mettre à mort et qui, voyant le Seigneur ressuscité, accomplir son œuvre de grâce envers tous. Je voudrais aussi en anéantir les résultats. Mais quoique furieux et redoutable, Satan est un ennemi vaincu. Dieu l'a annoncé dès la création. Malgré la puissance apparente à laquelle il prétendait encore, Saul s'appuyait sur un roseau cassé. Mais pour donner essor à sa rage contre les disciples du Seigneur. Les lettres qu'il avait de la part du souverain sacrificateur pour les synagogues ne leur parvinrent jamais. Ces lettres qu'il avait récupérées pour aller à Damas. Le Seigneur va montrer que Satan est vaincu en lui arrachant des mains le plus énergique instrument de sa haine, Saul, pour en faire son plus grand serviteur par lequel il édifiera l'assemblée que Saul même voulait détruire. D'un instrument de haine, d'un instrument d'emprisonnement, de meurtre, il va devenir un instrument de propagande de celui qu'il persécutait, Jésus. Et là, troisième point, sa transformation, sa métamorphose. Et on va lire ensemble Actes chapitre 9, versets 2 à 19. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, cette doctrine de Jésus, homme ou femme, peu importe, il les emmena liés à Jérusalem. Il allait chercher les gens chez eux. Les gens dénonçaient les autres. Cependant, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, et là le pauvre, parce que je tremble avec lui, hein. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux, et c'est un peu faible même, que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias a obéi, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, là, c'est une confiance en Dieu sans faille. Il appelle déjà Saul son frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Waouh ! Quelle histoire ! Quelle histoire ! En résumé, Saul s'en va, mais alors remonté comme une horloge, plein de convictions, plein de zèle, plein d'arrogance. Il dit, ah, je vais encore en choper quelques-uns là. Parce que maintenant j'ai un pouvoir supplémentaire, j'ai des lettres qui me donnent l'autorisation de tout faire. Et sur le chemin, bim, ah, il ne croyait pas rencontrer celui qu'il persécutait. Et là, il est tellement impressionné, quelle est sa réaction? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Là, il pense bien que ce n'est pas une petite voix parmi d'autres qu'il entend. Il entend et reconnaît la voix du Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et là, il est déjà dans la transformation. Il est déjà dans la métamorphose. Le Saul que l'on connaissait, celui qui accepte qu'on dépose à ses pieds les vêtements d'un jeune chrétien que l'on vient d'assassiner, là il se retrouve confronté à celui qu'il persécute, Jésus, et il est prêt à lui obéir. Et on voit quelle est la puissance de Dieu. Qui aurait pu parier, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, que Saul allait faire volte-face avec tout ce qu'il avait comme conviction de destruction? Et Ananias, là il aurait pu partir en courant en disant, Seigneur, mais moi non, c'est pas mon boulot, je ne vais pas aller me jeter dans la gueule du loup ou dans la gueule du lion. Mais le Seigneur lui dit, vas-y. Moi, j'ai préparé le terrain. Quand le Seigneur nous dit « vas-y », il a préparé le terrain. Il ne nous envoie pas dans la gueule du lion. Et si le lion est là, il ne nous mordra pas. Voyons maintenant le quatrième point, son message. Acte 26, versets 9 à 12. On ne va pas relire, parce que ça serait beaucoup trop long, il n'y a pas qu'un dimanche qu'on aurait besoin, parce qu'on pourrait en lire des choses sur Paul. On va juste lire deux textes. Acte 26, versets 9 à 12. « Pour moi, j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth, entre parenthèses, pour faire respecter les traditions. » Fermez la parenthèse. « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. » J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'étais d'accord. Je joignais mon suffrage, je donnais mon vote J'étais pour. Je joignais mon vote avec celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer, à renier le nom de Jésus. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Il lâche pas l'affaire. Il est convaincu. Mordicus, jusqu'à ce que la mort s'en suive, il veut accomplir sa mission. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 28, là c'est beaucoup plus loin dans son parcours, où on a un résumé en pensant à toutes les souffrances qu'il a pu faire aux autres. Voilà ce qu'il dit de lui. 2 Corinthiens 11, 24, 28. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Avec le même zèle qu'il avait mis à persécuter les chrétiens, l'apôtre Paul visita les synagogues des principales villes grecques et romaines pour annoncer à tous, à tous les juifs, que le Messie qu'ils attendaient était venu à la personne de Jésus de Nazareth. Paul avait peut-être, de par son statut de conquérant, de persécuteur, un statut dans lequel il avait des facilités. Mais là, on vient de voir que le chemin qu'il a vécu en suivant celui qu'il a été appelé par Jésus n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais il l'a fait avec son zèle. Le zèle qu'il a fait, Dieu ne lui a pas retiré son zèle. Vous voyez, Dieu ne lui a pas retiré sa vigueur. Il a traversé tout cela parce que Dieu l'y a aidé et parce qu'il était convaincu avec force, avec détermination qu'il fallait qu'il le fasse. Sans peur et sans reproche. Paul, je pense que c'est lui qui a écrit, je ne vais pas dire le plus, mais peut-être. Paul a écrit beaucoup d'évangiles. Il a échangé beaucoup de lettres remplies de reconnaissance, des lettres d'exhortation, des lettres de reproche constructif, des lettres d'encouragement, des lettres de partage. Il a écrit Romains, l'épître de Paul aux Romains. Qu'est-ce qu'il a écrit encore? Il a écrit l'épître de Paul aux 1 Corinthiens, et puis 2 Corinthiens, et puis Paul il a écrit aux Galates, il a écrit aux Éphésiens, il a écrit aux Philippiens, il a écrit aux Colossiens, il a écrit 2 lettres aux Thessaloniciens, il a écrit 2 lettres à Timothée, il a écrit à Tite, il a écrit à Philémon, et il a écrit aux Hébreux. Il a écrit, Paul. Il n'est pas resté inactif. Il avait ce feu que Jésus a mis en lui. Quatorze lettres. Les actes et tous ses épîtres, révèlent son caractère et l'immense valeur de son œuvre. Sa conversion ne fit qu'accroître son ardeur religieuse. Dieu a suscité Paul pour qu'il présente à l'humanité la personne et l'œuvre de Christ, hein, celui qu'il persécutait. Il a appris à le connaître et il a appris à diffuser son œuvre. Parmi les apôtres, il fut assurément le meilleur théologien et le plus fervent missionnaire. Par l'action et les écrits, il redoubla d'efforts pour rendre intelligible au monde païen l'évangile de Christ. Il voulait s'assurer que chacun comprenne la valeur et la portée du message de Christ, du Christ. Et enfin, Paul est la preuve vivante de la transformation, de la métamorphose entre le mal et le bien. La mutation profonde que le Saint-Esprit de Dieu peut réaliser en chacun de nous. Rien n'est impossible et rien ne fut impossible, même pour Paul et même envers Paul. Il a été chassé des synagogues, il a annoncé Jésus-Christ aux païens. Il fut finalement arrêté, condamné à mort et décapité à Rome sous Néron, entre l'an 65 et 67. La basilique romaine Saint-Paul, hors les murs, a été bâtie autour de sa sépulcre. On a retrouvé en 2002, sous l'autel majeur, un autel primitif du début du IVe siècle, dédié à Saint Paul apôtre. On a ensuite découvert dans cet autel en 2006 un sarcophage de pierre. Puis en 2007, dans ce sarcophage, les ossements de Saint Paul, dont la datation a été confirmée par l'examen au carbone 14. Voilà. J'ai voulu vous parler de sa biographie, un peu de son passage, mais surtout de sa transformation, de qu'est-ce qu'il a ressenti pendant toute sa vie, dans ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens 11, et puis comment il est mort. Conclusion. J'aurais plusieurs conclusions, mais je vous laisse celle-ci. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On aurait pu dire aussi que rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.